voix nue. Cette semaine, nous réécoutons la rencontre en 2006 entre Caroline Brouet et Françoise Héritier, qui vient de nous quitter. Ce soir, au commencement, était la Terre.
Françoise Héritier, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous à Paris pour cette série de 5 entretiens. Vous êtes une femme plutôt discrète et réservée. À ce titre, peu connue du grand public, on vous voit peu dans les médias. Et pourtant, en tant qu'anthropologue, vous avez travaillé sur des sujets qui touchent absolument tout le monde. La famille, l'inceste, la contraception, les rapports entre masculin et féminin, la violence, le corps, même la mécanique des fluides corporels, puisque vous avez travaillé sur le sang, l'eau, le lait, le sperme, la salive, la sueur, et j'en passe. Et vous avez recensé ces réflexions dans une dizaine d'ouvrages. Disons aussi que vous êtes professeur honoraire au Collège de France, où vous étiez titulaire de la chaire d'études comparées des sociétés africaines, et où vous avez dirigé pendant 16 ans le laboratoire d'anthropologie sociale. Vous avez là succédé à Claude Lévi-Strauss lui-même. Et vous êtes aussi directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Alors on va essayer, Françoise Héritier, pour ce premier entretien, de connaître un peu mieux la femme que vous êtes. Ce qui a fait de vous l'anthropologue que vous êtes devenue, ce qui vous a constitué et mu tout au long de votre vie. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'au commencement était la terre, Françoise Héritier, à la fois terre de votre famille paysanne et terre comme substance du monde ?
Terre comme substance du monde, ça serait me donner vraiment des ambitions enfantines que je n'avais pas. Mais terre comme substrat familial et comme... engouement, comme plaisir à vivre, oui, certainement, parce que je suis d'une ascendance paysanne des deux côtés. Bien sûr, je suis parisienne maintenant, depuis de nombreuses années, et je ne peux pas dire non plus que je sois de la deuxième génération. Mes parents ont déjà été des fonctionnaires de l'État, mais mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, dans les deux lignées, étaient les uns auvergnats, et très précisément, la branche paternelle, donc de ma famille, de mon père, ce sont des Auvergnats du Livradois, c'est-à-dire un pays, comme on dit, un pays particulier du Puy-de-Dôme, du département du Puy-de-Dôme, qui est en face des monts du Forêt, de l'autre côté d'une vallée où se trouve la ville la plus connue, qui est celle d'Ambert, qui est la capitale du Livradois. Bon. Et Ambert est connu à cause d'un roman et de sa mairie ronde, qui est quand même une forme assez peu courante pour les mairies des villes et des villages de France. Donc mes grands-parents étaient, mes arrière-grands-parents étaient originaires de cette région, dans des villages avec des noms auvergnats sonores et très beaux, La Chapelle-Agnon, Bertigna, Vertolaille, Saint-Amand, et Grandval, Limberdis, vous voyez, ce sont des noms qui ont bercé mon enfance. Et quant à ma mère, elle était bourguignonne, mais bourguignonne du sud de la Bourgogne, pas la grande Bourgogne dijonnaise, c'est la Bourgogne de Saône-et-Loire, celle du Charolais, donc avec les fameux grands bœufs blancs du Charolais, une région qui se situe dans un triangle entre dont les villes principales à cheval sur deux départements sont Roanne, Digoin et Paray-le-Monial. Paray-le-Monial étant connu pour son église romane extraordinaire. Enfin, c'est une des fameuses églises romanes de cette région parce qu'elles sont véritablement très belles. Or, il se trouve que je suis une enfant de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et que je suis née en 1933, et nous vivions à Saint-Étienne. Il y avait des restrictions alimentaires que vous avez dû en entendre parler, qui étaient assez sévères, et que pendant toute cette période, de 1939 à 1945 et même au-delà, mes parents nous ont envoyé, ma sœur, mon frère et moi, toujours en vacances dans cette famille auvergnate du Livradois, parce que là, bien, on faisait le pain à la ferme, des grandes tourtes de pain, il y avait du beurre, il y avait du fromage, il y avait du lard, et à chaque fois on nous pesait, d'ailleurs j'ai souvenir de ça, il y avait pour peser les veaux, il y avait ces balances dont j'ai oublié le nom, qui sont où on suspend l'animal avec des sangles à une barre et un crochet suspendu à une poutre, et on déplace un poids sur la barre. Et on nous asseyait comme les veaux là dans les sangles pour vérifier si nous avions pris du poids pendant les vacances d'été, ce qui était généralement le cas, effectivement, on prenait du poids.
Donc c'est plutôt d'excellents souvenirs que vous gardez.
C'est d'excellents souvenirs, d'autant que j'étais une petite fille au départ et ensuite une jeune adolescente à la fin de la guerre, extrêmement désireuse d'apprendre les techniques. Or, l'Auvergne était encore un endroit de France où les grandes techniques modernes n'étaient pas entrées, il n'y avait pas de moissonneuse-batteuse. Tout se faisait manuellement. On battait les gerbes au fléau. C'est deux hommes qui marchent l'un en face de l'autre, et puis au fléau. Et je conduisais les bœufs, je savais mettre le joug aux bœufs, je gardais les vaches. J'ai souvenir d'avoir été une fois attaquée par un taureau, c'est un de mes grandes peurs d'enfance. Je vous assure que dans ces cas-là, on détale à la vitesse maximum. J'ai appris donc toute une série de choses qui étaient à ma portée. On ne me demandait pas des choses excessives. Peut-être qu'à l'heure actuelle, on considérerait que c'était excessif de demander à une petite fille de la ville de garder les vaches, de traire les chèvres, d'aller nourrir les cochons, de penser, comme on disait, penser les bêtes, P-A-N-S-E-R, ça voulait dire les nourrir. On trouverait que tout cela est excessif. Moi, j'ai trouvé ça naturel et j'ai trouvé un immense plaisir. Et alors, j'ai appris à reconnaître un certain nombre de petites plantes que je cueillais, que je faisais sécher, qui servaient à faire des infusions, comme la mauve, des toutes petites violettes minuscules ici, qui servaient, je ne sais plus trop à quoi, mais enfin, que je cueillais religieusement pour faire les infusions. Bref, j'ai appris là-bas énormément de choses, et effectivement, ce goût pour les problèmes de la terre. Mais d'autres également, parce que c'était une éducation qui portait aussi sur des aspects de convivialité particulière. C'est la première fois de ma vie que j'avais remarqué un système de répartition des tâches et surtout des attitudes entre hommes et femmes. Et notamment, une de mes cousines par alliance, c'est-à-dire qui avait épousé un cousin germain de mon père et qui était celle qui devait tout faire, sous la houlette de sa belle-mère et de son mari, eh bien, c'était une personne qui ne s'asseyait pas pour manger. C'est-à-dire, elle servait à table les hommes. Il y avait son mari qui était assis au bout de la table, devant la fenêtre. Il y avait ses fils, les différents valets. Il y avait sa belle-mère pouvait s'asseoir un peu. C'était une vieille dame très très imposante, très un peu méchante de mon point de vue, mais un point de vue de petite fille. Moi, puisque j'étais une étrangère adoptée provisoirement, les petits garçons, etc., tout le monde était à la table, sauf elle. Elle servait tout le monde et elle mangeait debout. Et donc, il fallait apprendre les préséances. L'idée de me mettre au bout de la table ne me serait jamais venue. J'avais compris que c'était la place réservée aux chefs de famille. Il y avait une espèce d'intériorisation d'un certain nombre de modèles de comportement qui ressortissent effectivement des rapports des hommes et des femmes, enfin du masculin et du féminin, ce à quoi vous faisiez allusion au départ, et j'y étais confrontée très vite, sur la manière des différents types de rapports à l'intérieur d'une famille paysanne de cette époque. Bon, je vous dis pas que c'était comme cela partout en France. L'Auvergne faisait partie de ces régions un peu déshéritées à cause de son relief, à cause de ses terres qui portent des cultures relativement de pays froids, c'est-à-dire du seigle, des pommes de terre, de l'avoine, mais assez peu de froment, enfin pas de... Et donc une certaine pauvreté. Mais il n'empêche qu'il y avait une rigidité dans ces usages, comme le fait aussi qu'à l'église, les hommes se mettaient d'un côté et les femmes de l'autre, qu'on ne pouvait pas se mélanger. Ce sont des choses que j'ai apprises et intériorisées à cette époque, dans ces circonstances.
Est-ce que vous diriez que votre éducation a déterminé vos engagements futurs et vos thèmes de recherche ?
C'est-à-dire les étonnements que j'ai pu avoir et le fait d'avoir vu ce genre de choses m'a permis de mieux comprendre par la suite un certain nombre aussi d'observations que j'ai pu faire dans des terrains différents. Je n'y étais pas comme ethnologue, vous vous en doutez, mais j'avais déjà cette curiosité.
Et cette sensibilité.
Mais il y avait d'autres apprentissages aussi qui me sont restés, qui c'était des apprentissages de manuels, tricoter, broder, coudre, rapetasser, comme on disait, parce qu'il fallait souvent faire des rapetassages de chaussettes ou de pantalons ou de chemises qui nous étaient laissés, nous les femmes et les petites filles. Et puis, entre autres, alors là, c'est un joli souvenir, celui-là, les femmes là-bas et les hommes également l'hiver, pendant les grandes nuitées d'hiver où il n'y a pas grand-chose à faire, fabriquaient des chapelets. Vous voyez, le chapelet de que l'on dit dans l'Église catholique. Et ces chapelets étaient fabriqués donc dans cette région d'Auvergne. Et il continue d'y être fabriqué parce que c'est, je crois, un des rares objets qui ne peut pas être fabriqué artisanalement. Parce que entre chaque perle, vous devez découper un fil, que vous passez une perle, tordre le fil pour faire une boucle, ensuite insérer l'extrémité d'un fil nouveau, le tordre, passer une perle, couper le fil, refaire une boucle. Enfin, il y a tout un travail compliqué avec des pinces, du fil, puis des croix. Les femmes partent donc garder les vaches avec tout leur attirail, le rouleau de fil d'argent ou fil métallique quelconque, leurs perles. Elles ont des commandes, elles sont payées à la grosse, c'est-à-dire 12 douzaines, et il faut apprendre à manier cette pince coupante et à savoir bien faire. Et j'avais appris à faire des chapelets et je les faisais très très habilement et j'en ai fait pas mal dans toutes ces périodes auvergnates ainsi que d'autres travaux encore une fois manuels réservés aux femmes. Et la petite histoire drôle alors là, parce que là il y a une anecdote assez drôle, c'est qu'il y avait un tel savoir-faire féminin, parce que c'était précis et difficile, qu'on leur a demandé lorsque l'industrie du chapelet a un peu périclité. Maintenant c'est plutôt les pays d'Amérique latine et les pays africains qui en commandent, et pas toujours pour des raisons très catholiques, c'est plutôt pour des cultes syncrétiques, mais enfin peu importe, l'artisanat du chapelet a périclité, mais il est arrivé au moins une fois qu'un grand couturier, également grand parfumeur, Yves Saint-Laurent, quand il a lancé le parfum Opium, dont vous devez vous souvenir, les premières années, Opium, le parfum, pas l'eau, était vendu dans des flacons très beaux, très sophistiqués, et dont le bouchon était muni de quelque chose que je ne saurais comment appeler, une espèce d'ornement, qui était fait avec toute une série de cabochons de petites pièces d'or qui se terminaient par un gland de soie noire et qu'il fallait monter comme on montait un chapelet. Et c'est ma cousine, Marie Fritter de l'Espinasse, qui est morte maintenant, à qui je rends hommage parce que je l'aimais bien, et qui avait été chargée, parce qu'elle était une des meilleures ouvrières dans l'art du chapelet, de fabriquer donc ces ornements pour les bouchons d'opium. Cette année-là, j'avais à cette époque une maison que j'avais achetée en Auvergne. J'avais pas pu revoir les maisons familiales, elles étaient passées à d'autres lignes, si vous voulez. Mais j'avais acheté une maison à Bertignat et j'allais voir de temps en temps cette cousine qui était devenue veuve. Et comme j'avais gardé la main, j'avais réappris et je faisais des cabochons, je faisais des ornements pour Yves Saint-Laurent, ce qui fait qu'il doit y avoir comme ça, de par le monde, un certain nombre de personnes, si elles ont gardé cette jolie chose, qui ont des ornements qui ont été fabriqués par moi. C'est assez drôle.
Voix nue. Caroline Brouet rencontrait Françoise Héritier en 2006.
Alors la petite fille et la jeune fille, Françoise Héritier, faisaient des chapelets,
oui.
Savaient manier les outils de la terre,
oui.
Mais la grande jeune femme que vous avez été par la suite a choisi l'histoire-géographie comme étude.
Oui.
Vous avez complètement donc changé d'orientation. Vous avez fait des études d'histoire-géo avant de découvrir l'ethnologie à travers un séminaire de Claude Lévi-Strauss.
J'ai fait des études d'histoire et de géographie, et quand j'y repense, je pense que ce sont pour des raisons semblables à celles qui m'ont amené à l'ethnologie ensuite. Tout simplement parce que j'étais plus tentée par les ailleurs et les autrefois que par le monde contemporain. Peut-être à cause des horreurs de la guerre qui m'avaient frappée prématurément, si vous voulez. Mais en tout cas, ce qui se passait dans notre monde ne m'intéressait pas vraiment. En revanche, ce qui se passait dans les mondes anciens, le monde grec, le monde égyptien, d'ailleurs c'était l'Égypte surtout qui m'intéressait, j'avais vraiment envie de m'y consacrer. Et la géographie, c'était aussi les mêmes raisons. La géographie, c'est pas nécessairement la géographie de la France. Pourquoi aussi histoire et géographie ? En fait, je me serais bien contentée de faire de l'histoire, mais à l'époque où j'ai fait mes études, il y avait une discrimination assez surprenante qui fera rire certainement les auditeurs d'aujourd'hui. C'est qu'on considérait que la géographie toute seule était trop difficile pour les esprits féminins, et donc il y avait bien une licence d'histoire pour les garçons et une licence de géographie nettement séparée, mais les filles ne pouvaient pas faire l'une ou l'autre de ces deux licences. Il y avait pour elles une licence d'histoire-géographie où on considérait qu'elles apprenaient les rudiments de la géographie, mais pas qu'elles n'allaient pas au cœur des choses.
On est dans les années 50, hein ?
On est dans les années 50. Dans la fin, dans les années 50, 49-50, et puis ensuite. Donc, vous voyez, ça fait un peu plus d'un demi-siècle, mais c'était quand même, on considérait que la géographie était trop difficile pour les filles. Alors que franchement, non, certains absolument pas. Donc c'est pour cela que j'ai fait histoire et géographie. Et en fait, c'est un hasard heureux. Ça m'a plutôt servi d'avoir fait un peu de géographie par la suite. Donc je faisais histoire pour cette raison. Pour cette raison avec l'idée, parce que je préférais les ailleurs et les autres fois. Et avec l'idée que si j'avais de la chance, je pourrais peut-être devenir égyptologue.
Comment vous êtes-vous retrouvée dans un séminaire de Claude Lévi-Strauss sur, je suis obligée de lire l'intitulé du cours, « La chasse rituelle aux aigles chez Lizzie Datza ».
Alors ça, c'était la deuxième année. Mais il se trouve que quand on était à la Sorbonne, il n'y avait que la Sorbonne. Il n'y avait pas toutes les multiples universités parisiennes qu'il y a maintenant. Quand on était à la Sorbonne et qu'on fréquentait la bibliothèque de la Sorbonne, on se liait nécessairement avec des camarades d'autres disciplines. J'étais relativement introduite dans un groupe d'étudiants en philosophie et qui devaient, eux, quand ils préparaient l'agrégation, avoir fait un certificat de sciences. De sciences chimie, physique, mathématiques ou autres. Or, ils choisissaient généralement le certificat d'ethnologie qui se présentait sous deux espèces, ethnologie-sciences, où on faisait beaucoup de préhistoire, paléontologie, de mesures aussi, de mesures, et de statistiques. Et puis, il y en avait un autre qui s'appelait ethnologie-lettres. Et eux faisaient ethnologie-sciences pour avoir ce fameux certificat de sciences qui les autorisait à passer l'agrégation de philosophie. Et dans mes discussions avec eux, ils m'ont parlé de l'intérêt qu'ils portaient à cet enseignement. Or, je vous disais, moi j'avais fait histoire et géographie parce que j'ignorais même que la discipline ethnologique existât. Elle n'existait d'ailleurs pas. Elle était enseignée au Musée de l'Homme pour un certificat, mais il n'y avait pas de licence en sciences sociales. On ne dirait pas comme ça maintenant, mais en fait, ça n'existait pas. Donc, je découvre leur enthousiasme, et notamment à l'égard des cours que professait à la 5e section de l'École pratique des hautes études, Claude Lévi-Strauss. C'est la section des sciences religieuses. Et donc, je suis allée l'entendre, et puis je me suis inscrite pour faire moi aussi le certificat d'ethnologie, mais côté lettres. Bon. Et je suis allée entendre Claude Lévi-Strauss, dont on m'avait dit un bien si, si grand que je voulais vraiment l'entendre de mes propres oreilles. Et alors là, ça a été la révélation de ma vie, si vous voulez, parce que j'ai découvert des choses qui étaient totalement étrangères à mon champ de perception jusqu'à présent. J'ignorais totalement, encore une fois, la nature des faits dont il parlait. J'ignorais que ça ait pu exister. Et puis, sa façon de parler, d'expliquer était tellement intéressante que je les ai toujours suivies par la suite. Alors la première année n'était pas la chasse aux aigles chez les Idatsa, c'était quelque chose de tout aussi curieux parce qu'il avait consacré toute une année, le titre même de l'enseignement, je ne m'en souviens plus exactement, je crois que ça devait s'appeler le Vazou fidjien ou le Vazou à Fidji. Et Vazou, c'est un terme local. Et Fidji, donc les îles Fidji. Et le Vazou, c'est, si j'avais à le traduire, ça serait par une périphrase assez longuette, c'est le privilège qu'a le neveu utérin sur les biens de son oncle maternel. Donc un homme qui est le fils de la sœur d'un autre homme a des droits sur son oncle, sur le frère de sa mère. Alors ça veut dire qu'il a le droit de le plaisanter, de le lutiner, de le chahuter, mais il a aussi le droit de prendre ce qu'il veut. Alors évidemment, la décence oblige à ne pas se servir à outrance. Enfin, il peut prendre un plat cuisiné, il peut prendre un poulet, il peut prendre un petit cochon, il peut prendre un objet qui lui plaît, un couteau, etc. Et même dans certaines sociétés, il a le droit de lutiner ses épouses et son ou ses épouses, et puis après la mort de l'oncle, de les épouser. Donc ce privilège, là il l'étudie à Fidji, mais ensuite il élargissait le champ parce que en fait ça existe dans bien d'autres régions du monde. Et donc vous vous doutez que pour une petite occidentale parisienne, encore maintenant je pense que si vous preniez une jeune étudiante en langues étrangères appliquées, que vous lui parliez du privilège du neveu utérin sur l'oncle maternel, elle ouvrirait des yeux comme ça. Bon, donc c'était tout à fait désorientant. Et l'année suivante, c'était effectivement la chasse aux aigles chez les Idatsa, qui est une population indienne d'Amérique du Nord, où pour parvenir à l'état d'homme accompli et reconnu comme tel, les jeunes hommes doivent subir une série d'épreuves, dont l'une d'entre elles consiste à revenir d'une chasse aux aigles qu'on fait sur la montagne sans tuer l'aigle. Il faut pouvoir prélever sur l'aigle vivant des plumes qui vont servir ensuite, qu'on pourra arborer dans sa coiffure, ou qui figureront dans les paquets de chasse, qui sont des sortes d'hôtels, AUTEL, en fait, des hôtels religieux sur lesquels on fait des sacrifices pour la chasse. Et donc il y a une technique particulière, effectivement, parce qu'il faut attraper les aigles par les pattes, donc il faut se cacher dans des fosses, mais un aigle, ça a quand même des serres et un bec acéré, donc on n'en revient pas sans dommage. Mais enfin, bon, c'était cela les sujets de cours. Bon, ben ensuite, il y en a eu bien d'autres. Mais c'était ceux-là qui ont attiré mon attention. Et puis il se trouve que l'année où je finissais mon diplôme et j'allais me préparer à l'agrégation, Claude Lévi-Strauss a fait une annonce. Un jour, à la sortie de son séminaire, il a annoncé que un de ses collègues, un sociologue de l'université de Bordeaux, monsieur Roger Daval, si je me souviens bien, qui avait monté un petit institut de sciences humaines appliquées, recherchait un ethnologue et un géographe, c'était bien un, pour une mission d'ethnologie et de géographie en Haute-Volta, qui est devenue par la suite le Burkina Faso. Alors j'ai un de mes amis qui s'est présenté pour avoir le poste d'ethnologue, et puis moi qui me suis présenté pour avoir le poste de géographe, puisque j'avais les compétences techniques nécessaires. Et alors c'est là ma deuxième expérience, à côté de la première dont j'ai parlé tout à l'heure, de voir les femmes servir à table sans pouvoir s'asseoir, ma deuxième expérience d'un certain type des rapports entre hommes et femmes à cette époque, c'est que, alors que Claude Lévi-Strauss m'avait proposé et tout à fait soutenu, les mandataires, qui étaient le service de l'hydraulique du gouvernement général de l'Afrique occidentale française, ils m'ont refusé parce que j'étais une fille. Ils voulaient vraiment un garçon. Et c'est au bout de 3 mois, où il n'y a eu aucun candidat masculin, qu'ils m'ont accepté, la mort dans l'âme. Mais pour moi, ça a été un grand bonheur. C'était une mission d'ethnologie appliquée. Le service de l'hydraulique de la Haute-Volta voulait installer un barrage. Il s'agissait de développer les riziculteurs dans cette région, et pour cela il fallait qu'il y ait des hommes pour le faire. Et donc ces hommes, on aurait pu les trouver au pays Mossi, pays central de la Haute-Volta, où les terres, où il y a une surpopulation, les terres sont très abîmées, beaucoup de latérite, la brousse est maigre, les champs ne rendent pas beaucoup, il faut beaucoup tourner, enfin, beaucoup de jachère, et donc on pensait qu'il pourrait y avoir une main-d'œuvre des jeunes Mossi qui viendraient, non pas en main-d'œuvre saisonnière, mais qui pourraient venir s'installer définitivement dans la vallée du Sourou si ce barrage était construit.
Et vous voilà donc en Afrique, en Haute-Volta, oui, pour une durée assez longue, une expérience sur laquelle nous reviendrons demain, dans le deuxième entretien, Françoise Héritier.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Caroline Brouet avec Françoise Héritier, enregistrée en 2006. À voix nue. Réalisation Massimo Bellini, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.